L'étude de cet ensemble de Domitiani kénélatomien avec les données que peut nous apporter le dépotoir qui s'étend sur l'esplanade située devant le fort. Vous voyez ici la fouille du dépotoir, l'entrée que nous avons vue tout à l'heure. Le dépotoir principal s'étend sur 230 mètres carrés, vous voyez ici, dans ce secteur-là, ce qui est indiqué en vert. Il y a un petit dépotoir secondaire dans la partie nord, ici, et qui est séparé par une zone stérile. Le dépotoir principal constituait un volume de l'ordre de 80 mètres cubes. La stratigraphie en est simple, car les déchets ont été répandus à l'horizontale et qu'il s'est produit une forte diminution des volumes des matières organiques qui a entraîné une simplification naturelle de la succession des couches. Pour l'essentiel, les strates sont constituées de gravier mêlé à de la matière organique décomposée, intercalée avec des niveaux de cendres. Alors vous voyez ici ces dépôts qui sont relativement réguliers dans la pente avec quelques niveaux de cendres qui correspondent certainement au nettoyage du foyer des thermes et des cuisines. Le dépotoir compte 18 unités stratigraphiques regroupant des couches s'étendant sur plusieurs carrés. Bien que l'évolution architecturale du fort et l'étude des ostracas aient montré que le site fut occupé à trois reprises, nous y reviendrons tout à l'heure, sous Domitien et Trajan, sous Antonin le Pieux, puis sous les Sévères, aucune interruption de la stratigraphie du dépotoir n'est décelable. Les phases d'abandon ne sont pas marquées par des dépôts stériles, car aucun sédiment n'est apporté par le vent. Nous sommes dans une zone de roche et il n'y a donc pas de sable qui aurait permis donc de sceller en quelque sorte les diverses phases. Ainsi, les casernements du fort ont été trouvés tels qu'ils furent abandonnés, mis à part quelques écroulements de murs, et la surface du dépotoir était dans l'état où l'armée romaine l'a laissé, c'est-à-dire qu'on trouvait dès la première couche des grandes masses de tessons de céramique et d'ostracas. Étant donné que les deux premières phases, donc celle de Domitien et celle d'Antonin, interviennent dans un laps de temps d'un demi-siècle, il est difficile de distinguer par l'étude de la céramique seule les couches qui sont attribuables à chacun d'entre eux. L'étude des ostracas par Hélène Cuvini et Adam Bülow-Jacobsen permet toutefois d'aller un peu plus loin dans l'interprétation. La répartition stratigraphique des ostracas mentionnant les toponymes de Domitiani et de Kénélatomia semble au premier abord aléatoire. La carrière a été ouverte dans la dernière année du règne de Domitien, quelques mois seulement avant sa mort. Or, le nom de Domitiani est attesté dans 29 ostracas répartis sur l'ensemble de la stratigraphie. L'appellation Kénélatomia est quant à elle mentionnée dans 86 textes, la première attestation se trouvant dans l'US 3, à la base de la stratigraphie, c'est-à-dire pratiquement ici. Il apparaît donc que les deux toponymes ont été employés conjointement dès le début. Le terme de nouvelle carrière, officialisé un an à peine après l'ouverture des travaux, étant dû à sa postériorité par rapport à une carrière plus anciennement ouverte, qui est certainement celle du Mons Porphyrites, qui, comme nous l'avons vu, est la plus ancienne carrière impériale du massif, puisqu'elle a été ouverte en 18 de notre ère. L'emploi de l'un et l'autre toponyme, c'est-à-dire de Domitiani ou de Kénélatomia, n'est donc d'aucune aide pour interpréter la stratigraphie. Tout au plus peut-on penser que le toponyme Domitiani a été peu utilisé après la mort de l'empereur, puisque la damnatio memoriae qui suivit a dû affecter sa perpétuation, expliquant la disproportion entre les attestations des deux appellations. Nous avons vu donc 29 d'un côté, 86 de l'autre. Comme les ostracas mentionnant Domitiani ont été trouvés dans toutes les couches du dépotoir, soit y compris dans les couches supérieures, Soit on peut penser qu'ils sont résiduels, soit que dans les textes non officiels, le toponyme a été employé pendant un certain temps. Malgré ces incertitudes, les données disponibles permettent d'attribuer les US 1 à 5 à la phase de Domitien et Trajan. Alors ici, vous voyez par contre le matériel du milieu du IIe siècle. Nous sommes dans une couche de la deuxième phase. Et vous voyez ici le diagramme stratigraphique auquel j'aboutis. Donc, ces premières couches qui s'étendent sur plusieurs carrés seraient de la phase Domitien-Trajan. Et à partir de l'US 6 jusqu'à la 16, et pratiquement jusqu'à la surface, nous avons affaire à des rejets qui datent d'Antonin le Pieux. Le nombre respectif de couches, vous voyez ici qui est plus important, et le nombre minimum d'individus dans chacune des périodes montre que la phase d'Antonin le Pieux marque une occupation plus intense que la première phase, ce qui pourrait expliquer aussi le quasi-doublement des cellules à l'intérieur du fort, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur laquelle je vais revenir bientôt. Alors, poursuivons notre étude par les bâtiments annexes. Autour du fort, on trouve en effet des bâtiments dispersés. Je mentionne seulement les plus significatifs pour notre propos. À 100 mètres au sud-est du fort, nous trouvons un bâtiment composé de deux pièces inégales adossées à une paroi rocheuse, dont l'une de ces pièces pourrait être une habitation et l'autre une écurie, car les côtés sud et nord, comme vous le voyez là, sont bordés par des banquettes larges de 90 cm et hausses de 65 cm que j'interprète comme des supports de mangeoires pour les animaux de trait. Le dégagement de ces deux pièces n'a révélé aucune trace d'occupation. Les sols n'ont quasiment pas livré de céramique et ces observations indiquent que le bâtiment 6 n'a jamais été utilisé et cela pourrait même expliquer qu'il n'ait jamais été terminé et il pourrait donc correspondre à la phase du milieu du IIe siècle. À une centaine de mètres au nord du fort, ici, se trouve un ensemble formé par deux bâtiments, un bâtiment carré qu'il faut interpréter comme un scopelos, c'est-à-dire un poste de guet situé sur une hauteur, et au pied, une forge. Les bancs de roche qui se trouvent au pied du scopelos, comme vous voyez là, ont été d'abord exploités pour extraire les blocs qui furent nécessaires à la construction du fort. Par la suite, cet endroit abrité est utilisé pour implanter une forge. Dans une première phase, le forgeron travaillait à l'air libre en installant ses foyers contre la paroi rocheuse. On le voit ici. Ces foyers ont généré une masse de cendres, de charbon et de scories de fer épaisse d'une dizaine de centimètres et couvrant plusieurs mètres carrés. Dans une seconde phase, on a ajouté un bâtiment approximativement carré de 6,50 mètres de côté et qui est adossé à la paroi rocheuse et qui est ceinturé de murs relativement épais. Il comportait une entrée, une première pièce où devait habiter le forgeron, car on a trouvé une banquette qui servait certainement de lit, et un mur, un petit muret ici, délimite l'atelier. Et dans ce mur est aménagé un foyer entouré de pierres, aujourd'hui très fissuré par le feu, et dans l'angle ici se trouve le bassin de trempe qui est d'une contenance de 12 litres. Alors, voyons à quoi ça ressemble. Vous voyez ici la forge installée dans le mur et le bassin de trempe sur le côté. Le mobilier découvert sur le sol de cette pièce se limite à des fragments de quelques amphores de type égyptien qu'on appelle égyptienne 3. Et la rareté et la banalité du mobilier interdisent de dater précisément la construction de la forge. On peut toutefois penser que la première phase, celle où le forgeron travaillait à l'air libre, pourrait correspondre à l'occupation originelle du fort, tandis que le bâtiment de forge que nous voyons là aurait pu être construit lors de la reprise de l'activité extractive sous Antonin le Pieux. Un autre bâtiment intéressant est constituée par un temple situé sur un sommet, à 280 mètres environ au nord-ouest du fort, et à la côte, à l'altitude 605 mètres, soit à peu près 60 mètres au-dessus du niveau du fort. L'accès au temple se faisait par deux itinéraires. Le premier, venant du fort, passait par la forge, puis empruntait un sentier enlacé, se terminant par un long escalier. Et un autre venait de la, du Wadi et se terminait aussi par un escalier. Les deux escaliers convergeaient vers une terrasse naturelle qui porte, outre le temple, des abris adossés aux rochers. Alors, vous voyez ici cette terrasse, les escaliers qui arrivent et le temple dans cette partie-là. Le sanctuaire mesure 6 mètres par 5,50 mètres environ. Il est construit en pierre de schiste extraite sur place et il comporte une cella principale ouvrant au sud. Et au fond de la cella, on trouve un naos large de 1 mètre et long de 2 mètres qui devait abriter la statue du dieu. L'extrémité sud du mur occidental présente un contrefort très massif et il devait y avoir le symétrique ici qui a été ensuite transformé. Limitée par trois murs, cette construction fut ultérieurement remaniée pour servir d'entrée à la seconde celle-là que nous voyons ici. Dans la phase initiale, ces deux massifs devaient évoquer deux pylônes à l'entrée des temples égyptiens. En façade, devant l'entrée, un massif rectangulaire de 1,30 m par 1 m correspond à l'autel. Dans un second temps, donc, comme je vous l'ai dit, on a détruit ce qui devait être un pylône pour créer une deuxième entrée et accéder à une autre celle-là, possiblement dédiée à un autre dieu. L'ensemble est très ruiné, à la fois par l'érosion et par les destructions effectuées par les chercheurs de trésors qui ont défoncé le sol de la cella principale et de la niche. Le dégagement des structures n'apportait aucune information sur la nature du culte. On n'a trouvé ni statue, ni inscription, ni ex-voto, et à peine quelques tessons d'amphores égyptiennes, des fragments d'une marmite et même d'un plat fabriqué dans les ateliers d'Assouan. On pourrait aussi penser que le sanctuaire n'a pas été terminé, comme un certain nombre d'autres bâtiments, mais je pense que la présence d'un autel devant l'entrée et la construction d'une seconde celle-là par la suite montrent qu'il a été utilisé pendant un certain temps. Enfin, dans les abords immédiats du site se trouve un cimetière qui s'étend à 240 mètres au sud-est, au nord-est du fort, pardon, ici. Il devait compter une quinzaine de tombes recouvertes d'amas de pierre. Toutes les tombes ont été pillées avant notre arrivée. Et les fouilles complémentaires que nous avons faites montrent la présence principalement d'adultes, mais il y a aussi un enfant en bas âge. Et les adultes qui ont été retrouvés sont des hommes robustes, probablement des carriers ou des prisonniers, en tout cas des gens trop pauvres pour que leur corps soit transporté dans la vallée. À partir du fort, une voie remontait le Wadi et aboutissait aux carrières. Et aboutissait principalement, donc là on le suit bien, la route a été suivie sur le côté, elle a été très souvent emportée par le Wadi, et on aboutit ici à la zone des carrières et à un village de carriers qui est implanté à la base du flanc oriental de la montagne bordant le Wadi. Le village compte 18 cellules de dimension inégale, construites avec des pierres de schiste extraites sur place et adossées à la paroi rocheuse. Certaines de ces cellules comportent des lits limités par des pierres. Très très peu de matériel a été découvert dans les ruines, seulement quelques tessons d'amphores égyptiennes et de vaisselles à pâte claire. Mais vous comprenez que la topographie du village fait que les déchets étaient jetés depuis la falaise dans le lit du Wadi et évidemment le Wadi a emporté toute la céramique. Depuis le village de Carrier, deux chemins, vous en voyez ici un cas, deux chemins montent vers les carrières. La carrière la plus proche et la plus intensément occupée a été appelée carrière A. Elle est établie à flanc de montagne, sur la rive droite du Wadi, à l'altitude de 700 mètres, au niveau d'un banc de granit assez facile à exploiter que vous voyez ici. On y accédait par deux chemins. Vous voyez ici la carrière 1. On y accédait par deux chemins, un qui monte en zigzag et une rampe. Et également, on y accédait par ici, depuis le fort principal. L'un et l'autre chemin aboutissaient à la partie méridionale de la carrière, c'est-à-dire ici, et dans une zone plate, une plateforme limitée par un mur de soutènement haut de 1 à 2 mètres, selon les affleurements du rocher. Dans l'espace compris entre les fronts de taille qui sont, que vous voyez ici et le mur de soutènement, on trouve un sol fait d'éclats de taille de granit et de blocs qui ont été abandonnés. Il y a également ici une construction adossée au rocher. Vous voyez ici une coupe avec un scopelos en partie haute, la falaise qui est très importante, et la plateforme limitée par un mur de soutènement est ici. Donc ce bâtiment qui s'est avéré être une forge qui comportait à l'intérieur une très épaisse couche de charbon de bois et de scorie de fer qui permettent de l'identifier avec certitude. Les fronts de taille sont marqués de lignes de coin ayant servi à extraire les blocs, et ces lignes de coin sont visibles aussi bien au-dessus de la forge que le long des parois rocheuses. Vous voyez ici un bloc qui a été cassé en cours d'extraction. Et vous voyez en plusieurs endroits ces blocs qui sont, ces lignes de coin qui sont tout à fait identiques à celles qu'on trouve au Mons Claudianus et au Mons Porphyrites, montrant la même technique d'éclatement de la roche par donc des lignes de coin de fer enfoncées à la masse entre deux plaquettes de fer, ce qu'on appelle les parasphénias, qui sont souvent mentionnées dans les ostracas. Les fronts de taille montrent qu'on a tenté d'extraire des blocs parallépipédiques de moyenne dimension, et vous voyez ici quelques blocs qui sont semi-finis et prêts à être descendus par les rampes. Voici ici un front d'extraction avec ses lignes de coin, et ici un de ces blocs en cours de taille préparatoire. Comme je vous l'ai indiqué pour le Mont Claudianus, on essayait de dégrossir au maximum les blocs de façon à limiter le poids, évidemment pour les transporter plus facilement. Un des blocs trouvés dans le Wadi porte l'inscription RPP qui doit être interprétée comme l'inscription RACLP du Mons Claudianus en développant R en recensitum et P en porphyrites, ce qui indique que l'administration devait considérer que la Kenelatomia, la nouvelle carrière, faisait partie du Metallon Porphyritu, ce qui est d'ailleurs logique puisque la carrière est située dans le même massif que celle de Porphyre que nous avons vue tout à l'heure. Les blocs de la carrière étaient descendus par deux rampes. La rampe sud, ici, n'est pas bordée de construction cylindrique comme la rampe nord. Vous voyez ici les constructions cylindriques en partie préservées, ce qui montre qu'elle n'a pas été achevée. Par contre, la deuxième rampe de bloc, donc située au milieu de la carrière, bien qu'elle soit très fortement érodée, a livré ses cairns dont nous avons vu des exemplaires très bien conservés au Mons Porphyrites et qui servaient donc à descendre les blocs vers un quai de chargement situé au pied de la montagne en bordure de la voie. Nous avons vu que ces rampes sont systématiques au Mons Claudianus et au Mons Porphyrites et qu'il ne faut pas interpréter les cairns comme des piles de pierres tenues en réserve pour l'aménagement des rampes, comme le voulait David Peacock, mais plutôt comme des constructions destinées à fixer des assemblages de cordes pour freiner la descente des blocs. Alors, ici, donc, les rampes, là, vous voyez la carrière vue de face avec son grand mur de soutènement et le départ de la rampe, une rampe ici, et l'autre rampe part comme ceci. La carrière B, elle, est située au nord de la carrière A, à mi-hauteur de la montagne, entre les altitudes 805 mètres et 830 mètres. On y parvenait, depuis le village, par un chemin muletier en lacet, et un second sentier suit la face méridionale d'une arête rocheuse. Les deux chemins se rejoignent au niveau, vous voyez ici, d'un chicot de granit, vous voyez le sentier muletier, se rejoignent donc au niveau d'un chicot de granit, d'où les ouvriers ont extrait des blocs pour construire la rampe de descente que nous voyons ici. Voyons le plan un peu plus détaillé qui montre l'emplacement de la carrière de forme approximativement triangulaire et divisée par deux terrasses, par de très puissants murs de soutènement, la terrasse inférieure mesurant 16 mètres par 18 et la terrasse supérieure étant un peu plus petite. La paroi ouest, ici, abrupte, a été partiellement préparée pour l'extraction des blocs de granit et on voit plusieurs encoches de blocs qui... enfin, de plusieurs encoches pour mettre les coins pour extraire les blocs. Dans la partie supérieure, aussi, on assiste à un dégagement de la roche et vous voyez ici un chicot qui est resté avec l'emplacement des coins. La terrasse supérieure, qui mesure 26 mètres par 11, est limitée par un puissant mur de soutènement à nouveau, et elle est jonchée de blocs en cours de taille. Au sud-est, la paroi atteint un massif de granit taillé pour ménager un couloir, que vous voyez ici. Le couloir, pardon. Ce passage, large de 5 mètres, met en communication la carrière B et la rampe construite pour franchir le Talweg. Vous voyez cette rampe et là, les blocs qui ont été dégagés. Le couloir était destiné à permettre l'évacuation des blocs, mais il n'a pas été terminé. Un pan de roche détaché de la paroi ouest gît au milieu et n'a pas été enlevé. Au-dessus de la paroi ouest de la montagne se trouve un autre fond de taille et une aire d'extraction qui montre qu'on a effectivement tiré des blocs, mais probablement pour la phase préparatoire, c'est-à-dire la construction des murs de soutènement et de la rampe. Il était prévu d'ailleurs, à l'origine certainement, de construire la rampe jusqu'à la route aboutissant au village pour descendre les blocs. Or, le tronçon amont qui est bâti sur une arête rocheuse, a été fini, mais la partie aval, vers le village, n'a pas été réalisée. La rampe inachevée s'arrête brusquement sur un bloc. De plus, la jonction entre la rampe et le couloir, nous l'avons vu, n'a pas été réalisée. Donc, il s'agit maintenant, à partir de tous ces éléments, de synthétiser les données pour examiner l'évolution de cette carrière comme nous l'avons fait pour les précédentes. Je pense qu'on peut scander l'histoire de cette carrière en cinq phases que l'on retrouve dans le fort et dans les carrières. La première phase est constituée par la construction elle-même du fort à la fin du règne de Domitien en 96. Outre l'enceinte qui fait le tour du fort, on peut attribuer à cette phase les blocs A, B, C et F, laissant au centre du fort une large allée de 7,60 m qui dégageait bien l'îlot A et devant laquelle se trouvait une vaste place que l'on peut voir ici. L'îlot A était destiné, nous l'avons vu, au logement de l'encadrement. La pièce centrale 3, vitale par la présence de la citerne, servait aussi de sanctuaire où trois divinités devaient être vénérées. Les trois niches devaient abriter leurs statues. Nous ne savons rien des divinités adorées, mais on peut penser que, comme dans les autres carrières, Zeus Hélios, grand Sérapis, devait occuper la place centrale avec les dieux qui partagent le même temple, comme dit un ostracon du Mons Claudianus, daté de 223-235, mentionnant une dédicace faite par la cohorte des Ituréens. La présence, de part et d'autre du sacellum, des pièces qui communiquent avec lui, les identifie d'une part comme le prétorium, certainement ici, et d'autre part comme les principia dans cette zone. En effet, au sud, dans les pièces 4, 38 et 42, qui sont situées par là, pourraient se situer les appartements du commandant, communiquant avec les bains situés dans les pièces 36 et 90. Au nord de la pièce 3, les deux pièces 74-75 servaient probablement de bureaux et de salles de réception ou de réunion, dont, nous l'avons vu, le sol était dallé. Les cellules des autres îlots devaient être dévolues aux soldats et peut-être en partie aux carriers, comme dans les autres forts. À cette époque remonte certainement l'ouverture de la carrière A, la construction de la rampe principale et l'implantation du village des carriers, au moins de certaines des cellules de ce village. L'activité des carrières étant intermittente, elle générait malgré tout un grand nombre de documents sur Ostraca. Comme nous n'avons pas d'Ostraca daté entre les années 100 et 146, cela pourrait indiquer que l'on a affaire au cours de cette phase à une période d'abandon qui n'a pas laissé de traces dans le fort, et nous avons vu pourquoi, parce que nous sommes dans une zone, une zone pierreuse et donc il n'y a pas de dépôt de sable. Et je propose donc d'appeler cette phase intermédiaire entre les années 100 et 146 la phase 2, et ça correspondrait donc à un abandon. Une phase 3 est marquée par la densification des cellules d'habitation. De nouvelles pièces furent construites partout et il fut possible d'en ajouter dans tous ces secteurs que nous voyons là, quitte à condamner des passages, et, comme par exemple ici, qui rend donc impossible le passage dans l'allée nord du fort. Cette densification marque clairement un accroissement de l'activité extractive qui eut lieu vers le milieu du IIe siècle, époque où les Ostraca montrent une recrudescence d'activité dans la carrière sous le règne d'Antonin le Pieux à partir de 146 et jusqu'en 151. Je pense qu'il faut rattacher à cette phase l'exploitation, la construction d'une part des nouvelles écuries dans le bâtiment 6, celle, peut-être l'agrandissement du temple dans la partie supérieure du site, et probablement la construction de la forge que nous avons vue ici. Et je pense qu'il faut aussi rattacher à cette phase les travaux préparatoires d'exploitation de la carrière B que nous voyons ici. Comme nous l'avons vu, cette carrière ne fut jamais véritablement exploitée. Les blocs qui en ont été extraits ont servi à construire les murs de soutènement et la rampe qui n'a pas été terminée, pas plus d'ailleurs que le couloir d'accès à la carrière. Je propose donc l'hypothèse suivante. Lors des travaux très importants entrepris par Antonin le Pieux, peut-être l'achèvement du temple de Vénus et de Rome, à Rome, l'administration impériale a fait un effort exceptionnel d'exploitation de toutes les carrières du désert oriental. On assiste alors à des extractions au Mons Sophiates, à Tibériané, au Mons Claudianus et au Mons Porphyrites. À Kénélatomia, cet effort s'est soldé par un échec. La nouvelle carrière, celle que j'appelle B, n'a peut-être pas donné les résultats escomptés. Peut-être parce que les blocs étaient trop fissurés et qu'on ne pouvait pas extraire de gros blocs. Mais cela ne me paraît pas certain, car une autre alternative est possible que finalement je préfère. Je crois que, après le milieu du IIe siècle, les travaux importants à Rome commencent à toucher à leur fin, notamment les travaux donc, du temple de Vénus et de Rome. Et il est possible que l'administration ait décidé alors de renoncer à exploiter tous les fronts de carrière du désert pour concentrer ses efforts sur seulement deux grands gisements, ceux du Mons Claudianus et ceux du Mons Porphyrites. Nous avons vu il y a 15 jours et aujourd'hui que l'on assiste en effet, dans la seconde moitié du IIe siècle, à une décroissance de l'exploitation de ces deux carrières, certainement au Mons Claudianus et peut-être au Mons Porphyrites. Et d'autre part, nous avons vu précédemment que les carrières du Mons Ophiates semblent définitivement abandonnées après le milieu du IIe siècle. Donc, il me semble que c'est l'abandon est peut-être plus lié à une décision conjoncturelle qu'à la qualité elle-même de la pierre. De toute façon, il est vraisemblable qu'on utilisait cette pierre principalement pour faire des plaquages et donc peu importait qu'on puisse tirer de gros blocs ou non. Une phase 4 correspond à une nouvelle phase d'abandon après 150, année du dernier... Année 150-151, année du dernier ostracum daté, et probablement peu après parce que je n'ai trouvé nulle part de ces gourdes d'Assouan que nous avons vues dans plusieurs sites, notamment sur les routes qui mènent à Bérénice, ces gourdes d'Assouan qui commencent à être diffusées durant la seconde moitié du IIe siècle et qui sont totalement absentes à la fois des couches d'occupation du fort et des couches des déchets du dépotoir. Donc je crois que nous avons une phase d'abandon à peu près certaine qui pourrait avoir duré environ un demi-siècle. Et puis, on assiste à une phase 5 qui désigne une réoccupation du fort qui dura, je le crois, peu de temps, peut-être quelques mois, voire au moins. Lors de cette phase, le fort était déjà partiellement ruiné et il fut réoccupé seulement en partie. L'ancien sanctuaire fut désaffecté, donc on désaffectait ça, et on construisit devant les niches qui devaient abriter les statues divines des murs qui correspondent à une cuisine. Les pièces 74 et 75 furent alors nettoyées et une vasque fut construite dans une niche ménagée dans le bouchage de la porte entre la pièce 3 et la pièce 75, c'est-à-dire ici. C'est dans ces pièces que le centurion Caninus Donisius prit ses quartiers, si l'on en croit les lettres qui ont été trouvées. Un nouveau sanctuaire fut alors construit, ici, nous l'avons vu tout à l'heure, et cette pièce, qui comportait un couloir central longé de deux banquettes accessibles par des escaliers, évoque un mitréum. Un mitréum qui, comme vous le savez, a un couloir central encadré de banquettes, et terminé par un support d'autel au centre du couloir. Mais des sanctuaires construits dans les forts du désert oriental au début du IIIe siècle, tels que ceux de Koussour al-Banat ou de Didumoy, présentent des plans analogues sans qu'aucune attestation du culte de Mitra ne leur soit associée. En l'absence de preuves épigraphiques, on restera donc très prudent sur ce point. Le mobilier trouvé dans les couches de cette phase est datable de la fin du IIe et de la première moitié du IIIe siècle. Alors comment expliquer cette réoccupation? Dans la mesure où je n'ai pas pu individualiser de véritables niveaux de déchets de cette époque dans le dépotoir extérieur, mais seulement quelques tessons jetés en surface, et que le mobilier à l'intérieur du fort est rare et limité à quelques pièces, pas plus d'une vingtaine, je pense qu'on peut interpréter la réoccupation de l'époque sévérienne comme une tournée d'inspection destinée à éclairer l'administration sur l'opportunité ou non de rouvrir la carrière de Kénélatomia. Il est significatif que ces niveaux livraient de la correspondance montrant qu'un centurion réside sur place. Nous nous rappelons que c'est un centurion, Caius Cominius Legas, qui fut envoyé dans le désert sous Tibère pour découvrir les gisements de porphyre et les mettre en exploitation. Ce sont aussi des centurions, Annius Rufus, Valvenius Pruscus et Avitus, qui commandent le Mons Claudianus au moment des grands travaux d'extraction nécessités par la construction du Forum de Trajan entre 110 et 118. Sous Antonin, Lors du pic d'activité, le centurion s'appelle Plotinus. Nous le savons par l'Ostracon Loclod 868. Un centurion est aussi attesté au mont Sophiatès vers 150. Probablement, nous l'avons vu à nouveau au moment d'une forte activité. Enfin, c'est le centurion Decimus qui commande le fort de Cusor Albanat sous les Sévères lorsqu'il s'agit de créer la ligne de communication optique entre Myosormos et Coptos. Là encore, un projet qui est avorté. Donc, l'administration envoie un officier pour inspecter la carrière et prendre une décision quant à son ouverture. Mais à quelle occasion ? Pour cette période, on pense bien entendu soit à la construction du septizonium de Septime Sévère, soit à la décoration des pavements des thermes de Caracalla, dont le gros œuvre commence en 211-212 pour s'achever en 216. Je propose donc de dater la mission du centurion Caninus Donisius de cette période où l'on recherchait probablement des pierres spectaculaires pour mettre en valeur ces ouvrages colossaux. Donc, soit au tout début du siècle, soit vers 212 ou 113. Son rapport dut être négatif et la carrière ne fut pas rouverte. D'ailleurs, Hélène Cuvini me dit que Caninus Donisius était, semble-t-il, un personnage timoré. Cela a pu jouer dans la décision. Quoi qu'il en soit, c'était le second avortement et la rareté du granit de Kénélatomien à Rome est bien le reflet de ces échecs, malgré, nous l'avons vu, des investissements massifs en main-d'œuvre, encadrement et capitaux pour payer les salaires et les équipements. Cette carrière peut donc être mise au passif des mauvais choix de l'administration impériale, aveuglé par son désir de grandeur au point de gaspiller d'énormes ressources pour des travaux mal programmés et qui ont fait faillite. Mais ce type d'échec, comme vous le savez, n'est pas l'apanage des gouvernements du passé. L'examen des deux carrières A et B de Kénélatomien, que nous revoyons sur cette diapositive, apporte des enseignements quant à l'organisation des travaux d'exploitation. Étant donné l'hostilité du milieu, avant d'implanter une nouvelle carrière, il convenait de mettre en place une base vie, le fort, un réseau de communication, les voies, et des points d'eau. Ensuite, on créait une base avancée, ici le village des carriers, afin d'éviter aux travailleurs de rentrer tous les soirs jusqu'au fort. Puis, de ces deux bases, on lançait des chemins vers les bancs rocheux que l'on désirait exploiter. Il fallait en effet amener outils, matériaux et hommes à pied d'œuvre. Ces chemins sont suffisamment larges et peu inclinés pour permettre le passage d'ânes qui servaient à tous les transports. La troisième étape consistait à dégager les bancs de roches exploitables et, en utilisant les blocs bruts, à construire des terrasses pour travailler à l'aise. Ensuite seulement, commençait l'exploitation véritable. Et il convenait à ce moment-là de construire les rampes pour descendre les blocs vers la route. Lorsqu'il fut décidé de mettre un terme définitif à l'exploitation, la carrière 1, nous l'avons vu, était totalement opérationnelle. Les premiers fronts de taille, les carriers avaient tiré des blocs dont certains étaient épanelés et avaient été descendus vers le fort, puisque 5 d'entre eux sont abandonnés sur la route et un 6e devant le fort, et d'autres, bien entendu, amenés jusqu'à Rome. Une forge avait été construite et fonctionnait pour les besoins des carriers. Nous avons vu à l'occasion du Mons Claudianus qu'il fallait reforger les outils plusieurs fois par jour. La rampe numéro 2 était équipée de ses cairns cylindriques et donc avait servi à descendre les blocs. La carrière B, en revanche, était loin d'être en état d'exploitation. Les terrasses étaient construites, deux fronts de taille avaient été préparés mais non exploités, car les rampes n'étaient pas achevées. La rampe bute sur des rochers en cours de dégagement et s'élève, nous l'avons vu, jusqu'à un couloir qui n'a pas été terminé. On peut donc affirmer qu'aucun bloc n'a jamais été descendu de cette carrière. Tous les blocs extraits ont servi à la construction des murs de terrasse et des rampes. À la différence de la carrière A, d'ailleurs, la carrière B ne livre pas d'amas d'éclat de taille ni de blocs dégrossis. Au total, on peut penser que la plus grande part des deux périodes principales d'occupation de Domitianique et Nélatomien a été employé à préparer l'exploitation et que, peut-être à cause de la qualité de la pierre, l'ordre d'arrêter les travaux est venu alors que le complexe était à peine opérationnel et même non terminé. De la première tentative, qui dura peut-être 2 ou 3 ans, dateraient donc les débuts d'exploitation et tout au parti du village, et la deuxième tentative, qui dura 5 ans, environ au milieu du deuxième siècle, daterait la continuation d'exploitation de la carrière A et l'ouverture de la carrière B. Quant à la troisième tentative, au début du IIIe siècle, nous avons vu qu'elle s'est probablement bornée à une inspection, peut-être à quelques tests, mais pas à un véritable travail de carrière. Que ce soit au Mons Claudianus, au Mons Porphyrites ou à Kénélatomien, les rampes aboutissaient à des quais de chargement. Au Mons Claudianus, par exemple, il mesure entre 30 cm et 1,40 m de hauteur pour une longueur pouvant aller jusqu'à 26 m dans le cas de la carrière 109 du Mons Claudianus. Au Mons Porphyrites, on devait tirer dans les blocs, dans les wadis, jusqu'à un grand quai de chargement que nous avons vu et qui est situé sur le flanc oriental du massif. Le type de transport dépendait de la grosseur des blocs. Les petits blocs et les blocs moyens, tels que les blocs destinés au sillage pour les plaques, les chapiteaux et les bases, voire les baignoires et les bassins, ainsi que les petites colonnes, pouvaient être chargés sur des chariots. Trois ostracas, publiés par Adam Bülow-Jacobsen dans son ouvrage sur les carrières, sont significatifs. Dans l'ostracone du Claudianus 880, daté vers 150, Socrates, qui est qualifié d'ergodotès, c'est-à-dire de contremaître, informe Athénodoros qu'une charge est prête sur la rampe et il demande qu'on lui envoie des chariots. Dans l'ostracone 884, le même Socrates demande qu'on lui envoie un certain individu, qui est qualifié de décanos, pour qu'il fasse descendre deux pierres et qu'il les mette sur des chariots. Enfin, l'ostracone 896, toujours du même Socrates, est une lettre qui répond au secrétaire Hermaïscas au sujet des pierres à charger sur un chariot à deux roues, et donc on suppose des pierres légères. Les chariots courants étaient en fait dotés de 4 à 8 roues. Ils pouvaient transporter des colonnes d'un diamètre de 1 mètre et d'une longueur de 6 à 9 mètres et d'un poids de 10 à 20 tonnes, comme les 4 colonnes encore en place sur la rampe au débouché du Pilar Wadi au Mons Claudianus que vous voyez ici. Ce sont des chariots de ce type qui étaient employés certainement pour transporter les blocs des carrières du Mons Porphyrites et du Mons et de Kénélatomien, dont nous avons vu qu'ils sont en général relativement petits ou en tout cas de moyenne dimension. Les choses se compliquaient lorsque la charge dépassait la capacité des chariots courants et il fallait alors des chariots exceptionnels à 12 roues et donc à 6 essieux. Adam Bülow-Jacobsen a publié l'ostracone 871 du Mons Claudianus daté de l'époque d'Antonin. C'est un ordre donné par Épicouros à Longinus, qui est un kibariatès, c'est-à-dire un intendant, qui lui est chargé de distribuer la nourriture, et l'ordre lui est donné de nourrir 39 hommes de la familia Caesaris qui sont arrivés avec un chariot de 12 roues. Le fait que 39 hommes arrivent avec le chariot fait penser à une combinaison de traction entre des hommes et des animaux. Et vous voyez ici une reconstitution possible. Le chariot à 12 roues s'appelle dodécatrochone. On considère que l'on ne pouvait pas porter plus de 10 tonnes par essieu sur des chariots à roues. À Carrare, par exemple, les chars à plusieurs paires de bœufs pouvaient tirer des blocs jusqu'à 9 tonnes et 12 roues pouvaient donc convenir pour des blocs de 30 tonnes. La colonne qui gît à l'est du fort du Mons Claudianus, qui fait 30 tonnes, pourrait donc être transporté sur un chariot de ce type. Lorsqu'on dépassait les 30 tonnes, comme pour les colonnes de 50 pieds du Panthéon ou les colonnes de 60 pieds pesant 207 tonnes, qui sont encore dans la carrière du Mons Scaudinus, il fallait des moyens exceptionnels. Des traîneaux posés sur des rouleaux, comme on savait le faire depuis les temps pharaoniques et depuis les rois d'Assyrie à tout le moins. C'est à l'une de ces opérations exceptionnelles que doit se rapporter un papyrus de 118 après Jésus-Christ qui prévoit l'envoi d'orge à Kéné, c'est-à-dire à la ville qui est située au bout des routes des carrières, pour tirer une colonne de 50 pieds. Mais qui tirait la charge? Les mulets et les ânes, certainement pour les chariots courants, c'est-à-dire c'est à eux que sont destinées les écuries qui sont construites au Mons Scaudianus et dans l'effort des routes qui relient le Mons Scaudianus, le Mons Porphyrites et Kénélatomia jusqu'à la vallée. Les écuries du Mons Scaudianus représentent 80 mètres de linéaire de mangeoire, et donc si on alloue 1,50 m pour chaque animal, on obtient un total d'environ une centaine d'animaux. Mais il faut penser qu'une majorité des bêtes étaient certainement laissées à l'air libre. De même, Badia et Oum Sidri, vous voyez ici Badia par exemple, que nous avons vu très brièvement tout à l'heure, qui sont les forts dépendants du Mons Porphyrites, sont dotés d'écuries au IIe siècle. À Badia, les écuries mesurent 65 mètres par 35 et comportent 7 allées séparées par des mangeoires, soit 455 mètres de linéaire de mangeoires, ce qui permettrait de parquer au moins 500 animaux, ce qui donne l'échelle des grands convois de pierre. En fait, il aurait fallu 450 ânes pour tirer une colonne de 200 tonnes. Mais il était difficile d'arnacher et de contrôler un si grand nombre d'animaux. C'est la raison pour laquelle David Peacock et Adam Bülow-Jacobsen pensent que de tels blocs, tels que les colonnes de la basilique Ulpienne, ont été tirés par des hommes. Et nous nous rappelons qu'il avait fallu 1800 hommes pour déplacer les 1000 tonnes du colosse de Mémon à Thèbes. Et donc 400 hommes environ devaient suffire pour tirer une colonne de 200 tonnes. Mais il faut reconnaître que les ostracas n'ont pas fourni de documentation sur de telles masses d'hommes arrivées au Mons Scaudianus et la question reste donc débattue, notamment parmi les spécialistes des ostracas. Le transport des carrières vers le Nil se faisait par des pistes dont les pierres ont été écartées, comme nous l'avons vu, et des pistes qui sont marquées par des cairns de façon à être facilement repérable. Elle mesure entre 8 mètres et 14 mètres de large. Depuis le Mons Scaudianus, en allant vers le Nil, la première étape était à Bouzawal, vous voyez ici la route, puis qui était à 30 km du Mons Scaudianus, puis on arrivait à Al-Sakia, distance de 35 km, puis on trouvait un hydromain avec des écuries à Tal el-Zarqa. Puis on passait à Abu Zawal et ensuite les chariots s'arrêtaient à Kouraya, 35 km plus loin, puis à Bir Haras, situé à 25 km et qui était distant de 20 km de Kénépolis, c'est-à-dire aujourd'hui Kéna. Les gros chargements devaient nécessiter des étapes entre les hydromatas, c'est-à-dire entre les puits. Donc le trajet prenait au minimum 5 jours et probablement bien plus en fonction du poids des blocs à transporter. Le Mons Porphyrites et Kénélatomien étaient bien plus loin. Nous avons vu qu'environ 160 km les séparent du Nil et il fallait au minimum 8 jours pour les parcourir. Les convois faisaient étape à Oum Sidri, à Badia, à Qatar, à Deir el-Atrash, à Bab el-Moukénik, à Bir Salah, à El-Sakia, à El-Eita, et rejoignaient enfin la route du Mons Scaudianus à Bir Haras, dernière étape avant la ville nouvelle, donc de Kénépolis, fondée au débouché de la route et qui servait notamment de base arrière pour approvisionner les carrières. Donc, avec ce retour dans la vallée, nous en avons fini avec l'examen de l'exploitation des ressources des arts orientales à l'époque gréco-romaine. Et dans mon dernier cours sur le sujet, la semaine prochaine, je donnerai une synthèse chronologiquement ordonnée des acquis des recherches archéologiques concernant à la fois le commerce et à la fois l'exploitation des mines et des carrières entre la conquête macédonienne et l'Antiquité tardive, et j'essaierai de dégager les grandes lignes de l'exploitation avec ses phases d'expansion et de déclin, et les grandes lignes aussi de la fin de l'exploitation du désert oriental et de la fin du grand commerce avec l'Orient, de façon à ce que nous ayons une vue totalement synthétique de cette histoire. Merci.